Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Dans une Syrie en ruine après 10 ans de guerre, l'épidémie du coronavirus fait rage, les variants font des ravages et c'est la vague la plus importante dans le pays depuis le début de la pandémie. Pour l'Union des organisations de santé et de soins médicaux, une ONG franco-syrienne, une aide internationale d'urgence s'impose et elle le dit dans une lettre ouverte au président Macron. Les hôpitaux, déjà dépassés par 10 ans de bombardement et d'un système de santé quasi inexistant, sont saturés, les soignants sont débordés. Une situation incontrôlée qui nécessite une réponse dès à présent, souligne au micro d'Orient Hebdo le docteur Ziad Alissa, président de l'organisation, qui rentre d'un séjour à Raqqa. À suivre la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour docteur Ziad Alissa.
Bonjour Éric Bataillon.
Médecin anesthésiste, vous rentrez de Syrie où vous étiez en mission à Raqqa pour le compte de l'UOSSM, l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. Docteur Ziad Alissa, de quel genre de mission s'agissait-il ?
Alors, notre dernière mission à Raqqa en Syrie, c'était pour mise en place une étude statistique pour les enfants qui habitent dans le camp de réfugiés autour de Raqqa. C'est un examen médical pour les enfants entre 4 et 6 ans et pour détecter s'ils ont des problèmes avant l'âge de rentrée à l'école.
Ce n'était pas une mission de formation qui sont des missions que vous menez en général en Syrie?
En fait, cette mission, c'était une mission de formation qu'on a formée à l'équipe pour la prise en charge de Covid. On fait des missions de formation. Et la dernière, c'était pour mise en place d'un projet statistique, examen médical de santé générale chez les enfants dans le camp de réfugiés.
Dans quel état avez-vous trouvé cette ville de Raqqa et surtout, quel est l'état général des centres de soins dans la ville et alentour?
Alors, la ville de Raqqa, c'est vrai que si on compare maintenant avec il y a un an ou il y a 2 ans, il y a beaucoup d'améliorations, la vie reprend. La vie reprend doucement dans cette ville, mais il y a toujours un manque sur le plan de la santé en général. Dans les centres médicaux, il y a toujours un manque. On parle de manque des médicaments, du matériel et même des médecins et des infirmières. On essaie à faire avec nos moyens, on essaie quand même de soutenir ces centres médicaux là-bas. Et surtout qu'il y a là maintenant une demande énorme. Il y a plein de gens déplacés à l'intérieur de la Syrie qui vivent autour de Raqqa, qui étaient il y a un an un petit peu loin de cette ville. Là maintenant, ils ont commencé de s'approcher, de rentrer dans la ville. Et vu quand même que la vie reprend, donc on a une augmentation de la population. Et c'est pour ça qu'il faut adapter quand même l'offre de soins avec ce nombre de populations qui continuent à augmenter dans cette ville.
Est-ce que les gens qui reviennent dans des maisons, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction à Raqqa pendant les bombardements, pendant la guerre civile, est-ce qu'ils reviennent dans des maisons ou plutôt dans des dispensaires ou éventuellement dans des tentes par exemple?
Alors, donc il y a plusieurs types. Déjà, les gens qui habitaient déjà cette ville, ils reviennent de leur quartier et ils essaient quand même de faire avec leurs moyens de bord, ils essaient de réparer un petit peu leur logement pour y habiter. Et ça, on voit quand même qu'il y a des difficultés parce que les gens là-bas, ils n'ont pas les moyens. Et on sait là maintenant, il y a la ville de Raqqa, elle a été détruite à 80% à peu près. Donc il y a ce parti-là des gens qui habitaient déjà là-bas, qui essaient quand même de revenir chez eux avec un petit aménagement d'habiter dans leur bien. Après, il y a ceux que leur quartier est complètement disparu, soit ceux qui étaient au bagno de Raqqa, ou plutôt beaucoup de gens qui venaient de bagno de Deir ez-Zor vers Raqqa. Donc eux, ils sont autour de Raqqa dans les camps de réfugiés. Il y a des tentes, il y a des associations humanitaires qui essaient quand même de l'aider à s'installer. Mais les conditions de vie dans les camps de réfugiés, c'est vraiment difficile, surtout à l'intérieur de la Syrie.
Est-ce que vous pouvez travailler dans des conditions correctes? Est-ce qu'on vous laisse d'ailleurs travailler?
Alors, donc, pas tout le temps. Dans la ville elle-même, bon, on a aménagé des centres de soins et un centre de formation à l'hôpital de Raqqa. Donc là, on a des bâtiments, on peut dire, corrects pour la situation là-bas sur place. On a une maternité, on a quand même un centre de thalassémie à un banc de sang. Donc ça, c'est à l'intérieur de la ville, au sein de l'ancien hôpital de Raqqa. Donc là, ici, les conditions de travail ils sont correctes. Par contre, dès qu'on s'éloigne du centre, lorsqu'on va vers les banlieues de Raqqa, lorsqu'on va vers le camp de réfugiés, les conditions de travail sont difficiles. Déjà, il n'y a pas d'électricité 24 sur 24. Il n'y a pas de structure adaptée avec le travail. Il y a beaucoup de camps de réfugiés comme des tentes et sous les tentes, les gens travaillent pour soigner les gens, pour examiner les enfants. Et en même temps, on n'a pas quand même des conditions de travail et de vie correctes, mais on essaie de faire avec. On essaie à chaque fois d'améliorer les conditions, surtout pour les centres des soins, ce qu'on fait nous dans notre association. Qu'on cherche là où on trouve par exemple un ancien centre de soins, un vieil bâtiment qui peut être quand même un centre de soins, on fait des travaux pour l'aménager, pour améliorer les conditions de travail, qui n'était pas toujours facile.
Docteur Ziad Alissa, vous effectuez régulièrement des séjours de formation et d'accompagnement en Syrie. Avez-vous vu la situation se dégrader au fil des mois dans le domaine de la santé ?
Dans le domaine de la santé, oui, c'est vrai que déjà, bon, on sait que 10 ans de guerre, le système de santé, il était presque hors service. Il y a comme les hôpitaux et les surtout plein de centres de soins, ils étaient détruits et il y a beaucoup de médecins qui l'ont quitté ces zones-là. Donc c'est pour ça la situation de santé, bien sûr, elle est dégradée. On voit. À part les victimes directes des bombardements et de la guerre, on voit quand même toutes ces maladies chroniques qui ne trouvent pas leurs médicaments de façon régulière. Un diabétique qui n'est pas soigné de façon régulière, un malade cardiaque, lorsqu'ils ne trouvent pas leurs médicaments de façon quand même régulière, ils vont se soigner de façon quand même pas correctement. Les centres d'accouchement, les centres, on voit quand même les conditions des centres d'accouchement. Moi, j'ai vu quand même des centres d'accouchement où dans la même salle de travail, il y avait 3 femmes avec les lits côte à côte. Donc, vraiment, la situation dans le domaine de la santé est dégradée. On essaye, nous, à remplacer quand même l'État, mais on sait que c'est pas quelque chose de facile. Un système de santé, normalement, à l'international, il est soutenu par l'État, par un ministère de la Santé, par un budget. En tant qu'association humanitaire, on est quand même limité avec les ressources. Donc même si on essaie avec tous nos efforts pour remplacer ces systèmes de santé, on n'arrive pas à 100%. C'est pour ça qu'on essaie de répondre vraiment au cas par cas, au plus urgent, vers les autres problèmes. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse à tous les problèmes de la santé. Exemple, les malades qui ont quand même des cancers, on n'a pas le moyen de traiter un cancer. On n'a pas le moyen de la chimiothérapie, par exemple, dans ces zones du nord de la Syrie. Donc, il y a toujours un manque, un neurochirurgien, un malade qui a besoin d'une opération neurochirurgicale, il n'y a pas de moyen. Donc, malgré toutes les volontés des associations humanitaires et nous à l'USSM, malgré tous les efforts qu'ils font, ce qu'ils restent là-bas comme équipe de santé, mais il n'y a pas assez de moyens pour répondre à tous les besoins de santé dans cette zone du monde.
Oui, en particulier les zones qui échappent au pouvoir de Damas et qui sont donc un peu laissées à leur propre volonté.
C'est ça, lorsqu'on prend par exemple tout le nord-est de la Syrie, lorsqu'on prend le nord-ouest de la Syrie, c'est des zones qui n'ont pas d'État. Il n'y a pas d'État. Même s'ils ont essayé de s'organiser comme ils peuvent, mais il n'y a pas les moyens d'un État pour quand même soutenir les gens là-bas, les besoins quotidiens. C'est les ONG qui sont en train de travailler dans ces zones-là.
Est-ce que la pandémie du coronavirus a accentué les difficultés ces derniers mois ?
Oui. Oui, le coronavirus, il est rentré en Syrie, comme partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à répondre à ces besoins-là. Nous, à l'USSM France, avec les autres ONG quand même, on a commencé par déjà parler, former les équipes là-bas pour faire face à cette pandémie. On a quand même créé des centres spéciaux pour le Covid, mais au début, par exemple, la difficulté, c'était d'avoir le test. On a eu beaucoup de difficultés d'avoir la possibilité de tester, de faire le PCR. C'était pas facile au début. Deuxième chose, lorsque on a vu quand même partout dans le monde où il y a des règles strictes qui ont été mises en place, mais ces règles strictes, c'est l'État qui l'a appliqué. Or, là-bas, dans ces zones-là, qui va obliger les gens de rester chez eux ? Qui va mettre en place un couvre-feu ? il n'y a pas une autorité capable d'appliquer un couvre-feu comme il faut. Donc c'est pour ça, on a vu quand même le non-respect de couvre-feu, malgré tous les efforts des ONG. Mais c'est pour ça, on a vu un peu plus de victimes qu'ailleurs. Mais finalement, avec les centres de Covid, avec plusieurs formations, on a fait de formations sur place, on a fait de formations à distance, on a sensibilisé quand même toutes les autorités locaux là-bas. Et ensemble, on a quand même arrivé à gérer la situation, pas à 100%, mais au moins, on a arrivé quand même à diminuer les complications. Par contre, les cas graves qui arrivent jusqu'à le besoin d'une réanimation, intubation, ventilation mécanique et tout ça, malheureusement, il n'y a pas le moyen de le faire là-bas sur place.
Malgré tout, vous lancez un cri d'alerte. Nous sommes à bout de souffle, nous manquons d'oxygène. C'est ce que vous écrivez dans un communiqué de presse récent. Vous diriez que la situation actuelle, qui semble pas très bien contrôlée, nécessite une aide internationale d'urgence?
Oui, parce que là maintenant, les besoins sur place, ça dépasse les moyens d'une ONG. Lorsqu'on parle de l'oxygène, par exemple, on sait quand même que c'est très important parmi les traitements de Covid. On parle de Covid moyen, hein, que les gens quand même manquent d'oxygène, qu'on a besoin de l'oxygénothérapie pour traiter les gens et un simple masque d'oxygène peut sauver une vie. Donc l'oxygène est une partie initiale très importante de traitement de toutes les insuffisances respiratoires dues au Covid ou autres, mais là maintenant on voit le Covid. Donc lorsqu'on voit par exemple qu'il y a un manque d'oxygène quand même, mais la vie des malades en danger, donc on voit quand même que quelquefois avec des petits gestes on peut sauver des vies. Par contre, les moyens dépassent là maintenant le moyen d'une ONG. Vraiment, la Syrie, on parle là maintenant dans le nord, au nord-est, nord-est, ouest de la Syrie, là où il n'y a pas le ministère de la Santé, il n'y a pas de gouvernement, et il y a quand même une catastrophe humanitaire parce que il y a un manque de moyens. Et ça, sans l'aide internationale, on ne peut pas continuer à travailler.
Merci, docteur Ziad Alissa.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Médecin anesthésiste de retour de Syrie, où vous étiez en mission à Raqqa pour le compte de l'UOSSM, l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, dont vous êtes le président. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem, où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et bonjour Michel.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors l'Iran est le sujet principal que l'on retrouve dans vos médias cette semaine, à commencer d'ailleurs par les médias israéliens, Michel Paul.
Et c'est une mise en garde peu courante, comme le fait remarquer le quotidien de gauche à Haaretz. Elle émane du chef du Mossad, le service secret israélien, et fait la une des médias de cette fin de semaine ici en Israël. David Barnea le proclame, les Iraniens n'auront jamais l'arme nucléaire. Une promesse qui fait l'objet de critiques, non pas sur le fond, mais plutôt sur sa forme. Un ancien chef des renseignements militaires indique que le Mossad est jugé sur des actes et non pas sur des paroles. L'accord sur le nucléaire iranien qui se concocte à Vienne, explique encore de son côté Barnea, est tout simplement insupportable du point de vue israélien. Autre déclaration retenue par la presse ici, celle du ministre de la Défense Benny Gantz, pour qui l'option militaire doit toujours être sur la table, même s'il s'agit du dernier ressort. Yedioth Ahronot met l'accent sur ce qu'il dénomme la grave crise entre Israël et les États-Unis. Les Américains, titre le quotidien, l'exigent des Israéliens, pas de surprise ou d'action secrète. On trouve aussi ce titre, pas de plan concret pour une attaque en Iran à ce stade, mais aussi le fait qu'Israël débloque des crédits en milliards de dollars pour équiper son armée de moyens spéciaux pour une éventuelle offensive.
Alors Alexandre, l'Iran occupe aussi une bonne place chez les éditorialistes arabes, mais pas pour les mêmes raisons.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, si la question nucléaire est posée par les journaux arabes, c'est tout simplement une sorte d'entrée en matière pour justifier un réquisitoire de la part de nombreux journalistes contre la République islamique ou, comme l'appellent certains éditorialistes, l'État des ayatollahs, en référence au culte chiite, ou encore l'Empire perse pour rappeler une inimitié ancestrale. Salah al-Qaleb, qui est un ancien ministre jordanien de l'information, écrit dans Sharq al-Awsat que l'Iran est plus agressif à l'égard des Arabes que ne l'est Israël. Comme d'autres éditorialistes, il accuse l'Iran d'occuper, directement ou indirectement, quatre pays arabes. En Syrie, c'est une colonisation en bonne et due forme dans l'est du pays. Au Liban, les milices chiites occupent le sud du pays et le Hezbollah bloque le pouvoir à Beyrouth. En Irak, les formations politiques téléguidées par l'Iran refusent de reconnaître leur défaite électorale et menacent d'utiliser la force pour continuer à contrôler le pays. Et au Yémen, les milices houthis alliées de l'Iran ne se contentent pas d'occuper le nord du pays, mais agressent régulièrement l'Arabie saoudite. Et certains éditorialistes concluent que les menaces iraniennes contre l'ennemi sioniste ne sont que gesticulations verbales, alors que les agressions contre les Arabes sont une résurgence de l'impérialisme perse qui cherche à se venger des défaites du passé.
Alors Alexandre, vos journaux ont également un œil sur la Libye. À 3 semaines des élections, des éditorialistes arabes ne cachent pas leur scepticisme.
Oui, un scepticisme qui est nourri par des attaques armées contre 5 bureaux électoraux et le vol de bulletins de vote, ainsi que l'enlèvement de responsables de la commission électorale. Alors des attaques qui risquent de se multiplier de plus en plus pour culminer le 24 décembre, jour des élections, craignent des analystes. Commentaire aussi sur l'exclusion de la candidature de Saif al-Islam Kadhafi et sa restauration par un tribunal du sud du pays. Des tensions qui poussent des éditorialistes à se poser la question : les élections sont-elles la solution des problèmes libyens ou bien les élections sont-elles une nouvelle source de problèmes pour la Libye ?
Michel Paul, d'autres sujets en bref qui font l'actualité en Israël.
Un véritable scandale, estime nombre de commentateurs. Gilad Bennett, l'épouse du Premier ministre, et ses enfants s'envolent pour des vacances à l'étranger à l'occasion des congés de Hanouka, la fête des Lumières. Le problème, Eric, c'est que quelques jours plus tôt, son mari, Naftali Bennett, avait demandé aux Israéliens de renoncer au voyage à l'étranger en raison des risques provoqués par le nouveau variant. Réaction bredouillée du Premier ministre. L'Omicron a fait son apparition en Israël et relance le débat sur la gestion de la crise sanitaire. Un point, en tout cas, a été résolu. Le gouvernement avait ordonné le retour des suivis controversés des cas de contamination par le Shin Bet, le service de la sécurité intérieure. Le procédé avait fait l'objet de vives critiques. Il a finalement été abandonné, tout simplement, parce que l'Omicron semble moins terrifiant qu'il n'y paraissait au départ. Et puis également, Eric, ce sujet qui préoccupe les Tel-Aviviens, la métropole israélienne, selon le classement de The Economist, détrône Paris pour devenir la ville la plus chère du monde. La presse de ce week-end fuse de reportages sur ce sujet, notamment le prix des logements qui rend la situation insoutenable pour les jeunes couples.
Et pour finir, l'image forte que vous avez retenue pour nous, Michel.
Eh bien, c'est la photo très symbolique pour les Israéliens. Naftali Bennett assis sur le canapé de la résidence officielle des premiers ministres pour la première fois depuis son investiture. Pendant près de 2 ans, des milliers d'Israéliens manifestaient toutes les semaines face à cette maison rue Balfour à Jérusalem lorsque Netanyahou l'occupait. Bennett préfère habiter chez lui dans la banlieue de Tel Aviv.
Et c'est moins cher. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Gulchani, à réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous lirons avec l'islamologue émérite Marie-Thérèse Urvois son dernier livre « Islam et islamisme, frères siamois ou frères ennemis », un ouvrage publié aux éditions Artege. À demain donc, dans un instant, le journal.
Religion du monde.